j'ai intitulé ma présentation, mon PowerPoint, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Alors, c'est un verbatim, pardon, de Maëlys qui montre que finalement, dans cette séance, tout n'était pas très simple pour elle. J'ajoute, et là, pour le coup, c'est moi qui parle, une analyse peut-être outrée sur un corpus restreint. Alors, pourquoi ça? Qui nous permet de voir quelque chose qui est très rare, à savoir la continuité des apprentissages d'un même élève, Maëlys en l'occurrence, et donc ça c'est tout à fait précieux. Mais il faut bien comprendre que ça reste un corpus limité, donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était un corpus restreint, parce que on ne voit pas Maëlys dans ses autres séances, on ne voit pas Maëlys dans le reste de sa journée. Enfin voilà, donc ça reste un corpus restreint, et par conséquent, certaines choses que je vais sans doute être amené à dire pourraient paraître des généralisations un peu abusives, puisque effectivement, j'ai pas pu le vérifier sur un corpus plus large. Deuxième chose. Mais finalement, c'est peut-être pas très grave. Pourquoi? Parce que ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer comment fonctionne ce modèle du curriculum invisible que j'ai mis au point, et pour vous montrer comment ça peut vous aider, vous, dans vos formations, dans l'analyse des situations scolaires, scolaires ou périscolaires ou extrascolaires. Voilà, donc si vous voulez, c'est plus une forme de démonstration que une analyse la plus précise possible du cas présent. J'ai fait un plan de présentation en trois parties. Donc, je vais d'abord essayer de vous montrer des éléments un peu théoriques sur la façon dont je pense qu'il est important d'analyser une situation scolaire. Puis, je reviendrai vraiment au cas de Maëlys et on se demandera que faut-il faire. Alors, que faut-il faire pour elle dans la situation où elle est. Et puis, troisièmement, j'essaierai de vous montrer ce que c'est que cette histoire de curriculum invisible et comment on peut l'utiliser. Alors, on est toujours un petit peu démunis face à une situation scolaire parce que c'est très riche. On ne sait pas par quel bout la prendre, une situation scolaire ou même la situation au centre. Il y a des choses qui partent dans tous les sens. Et puis, on a l'impression d'une espèce de totalité, quoi, où les choses se mettent à dérailler ou au contraire fonctionnent bien, mais sans qu'on sache exactement par quel bout la prendre. Et effectivement, les différents intervenants, et en particulier les élèves, sont confrontés à toute une série de signes qui interviennent conjointement et qui sont de plein de nature. Alors, je vais me focaliser sur les signes qui peuvent être reçus dans la situation par Maëlys. Et en particulier, je vais commencer par les signes qui pourraient lui indiquer ce qu'elle a à faire, ce qu'elle a à faire dans cette situation. Alors, ces signes sont de nature très diverse. Le premier de ces signes, c'est naturellement sa feuille d'exercice qui a été distribuée par l'enseignante, et également son manuel ou son cahier dans lesquels elle risque d'avoir des informations complémentaires à sa feuille. Mais on pourrait aussi ajouter dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire comme support écrit, les supports qu'elle peut trouver au tableau. En effet, l'enseignante projette des diapos au tableau, et puis ce qu'elle va trouver écrit au tableau d'ici pas très longtemps, puisque l'enseignante va se mettre à écrire des choses. On a également le cahier de sa voisine, qui est une source d'information tout à fait essentielle pour Maëlys. Et puis, on a des signes qui sont d'autres natures. Alors, premier exemple, avec le discours de l'enseignante qui a, comme toujours, une place prépondérante dans les situations scolaires. Ce qui pourrait également sortir des enceintes si l'enseignante avait prévu une présentation. Et puis, les échanges qu'elle va avoir avec ses camarades qui sont assis juste à côté d'elle. Donc, du discours oral. On va avoir également des signes, alors soit des gestes de l'enseignante qui vise à se faire mieux comprendre, ou alors la façon dont elle va orienter son regard. Là, elle regarde justement Maëlys qui, elle, de son côté, ne la regarde pas, mais est en train de farfouiller dans son sac. La façon dont également sa camarade va porter son regard, qui va lui donner des indications sur ce que sa camarade pense qu'il est important de faire, ou plus largement la façon dont sa camarade, sa voisine se comporte, Et si j'élargis un peu, la façon dont l'ensemble des élèves de la classe se comportent. Et puis plus largement, on pourrait dire que tout ça se déroule quand même dans une classe et que le simple fait qu'on soit dans une classe, donc avec une situation de classe, donne un certain nombre d'informations, une situation de classe avec comment dire, l'atmosphère qu'il peut y avoir dans cette classe. Enfin, voilà, tout ça donne un certain nombre d'informations. Donc vous voyez qu'il y a des signes qui sont vraiment de nature très diverse et qui interviennent en même temps et que Maëlys va capter essentiellement, évidemment, par les yeux et les oreilles. Du côté du centre, du côté du centre, on a exactement le même principe, même fonctionnement, avec toute une série de signes, les feuilles, le comportement de l'intervenant, le discours de l'intervenant, la situation elle-même, les gestes qu'il peut avoir quand il se lève pour aller chercher une feuille, etc. Donc, on est face à un certain nombre de signes et ces signes, Maëlys va devoir les interpréter. Elle va devoir se faire ce que Waller, un sociologue états-unien de l'éducation, a appelé il y a déjà pratiquement un siècle, une définition de la situation. Ces signes vont permettre à Maëlys de définir quelle est cette situation dans laquelle elle se trouve. En effet, la question que se posent tous les élèves dans toutes les classes, hein, c'est qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Pas dans un sens péjoratif, c'est-à-dire pas dans le sens où je suis en train de m'ennuyer et j'aurais bien envie d'être ailleurs, mais vraiment dans le sens propre de la question, quel est le sens de ma présence dans cette situation, dans cette classe, dans ce lieu, au centre social? Et les intervenants de leur côté, enfin les intervenants, les encadrants, vont essayer de répondre à deux autres questions. L'enseignante, c'est comment l'aider à comprendre ce qu'elle fait ici? Autrement dit, comment je vais l'aider à percevoir quels sont les apprentissages en jeu? Et au centre social, Gabriel, comment l'aider à comprendre ce qu'elle fait à l'école, puisqu'il a vraiment un rôle un peu de supplétif des apprentissages scolaires. Pour répondre à ces deux questions, les intervenants produisent ces signes dont on vient de parler, donc des signes écrits, mais également des gestes, mais également des discours, un comportement général, et ils essaient de produire une situation, enfin ils sont en tous les cas intégrés dans une situation avec Maëlys. Et de son côté, Maëlys va recevoir ces signes et en produire en retour, donc vous voyez, il va y avoir entre eux un échange de signes. Alors là, je fais comme si la situation, si vous voulez, la définition de la situation, elle intervenait dans l'instant, d'après les signes qui sont produits dans l'instant. Mais il y a aussi une sédimentation de la définition de la situation, une histoire qui va intervenir comme ça. Donc, ce que j'ai appelé une épaisseur historique, pardon, de l'expérience scolaire. Dans cette situation, une situation nouvelle, où Maëlys se trouve plongée, on a vu qu'il y a des signes et ces signes produisent des signaux, des indications qui vont renvoyer Maëlys à des choses qu'elle connaît déjà. C'est-à-dire que les signes suggèrent que la situation ressemble à autre chose, à un ensemble de situations similaires qu'elle a déjà vécues. Alors typiquement, les signes en classe, en cours d'histoire, la renvoient à la classe, la renvoient aux différents cours qu'elle a déjà eus. Et puis, par exemple, elle sait que la prof d'histoire distribue toujours des feuilles avec des documents, ou voilà, des choses comme ça. Et donc, elle va devoir faire un peu la même chose. Ou alors, au centre social, c'est pas la première fois qu'elle y va. Et donc, elle sait que comme elle arrive au centre social et que on est effectivement, enfin, les signes la renvoient au centre social, eh ben, elle va se comporter comme elle se comporte habituellement au centre social. Et donc, une fois qu'elle a identifié à quelle situation similaire c'était lié, cette situation similaire, cet ensemble de situations similaires, plus exactement, va influer sur la définition de cette situation nouvelle. Ah bah oui, on est au centre social, donc je fais comme d'habitude au centre social. Ah bah oui, on est en cours d'histoire, donc je fais comme d'habitude au cours d'histoire. Donc, vous voyez un peu le fonctionnement, c'est un fonctionnement un peu circulaire, mais évidemment qui pose un problème, puisque si j'en reste là, les choses n'évoluent jamais. Maëlys, elle comprend les situations scolaires d'une certaine manière, et donc ça calibrera toujours, ça influera toujours sur la définition de la situation de la même manière. Donc je vais, alors donc autrement dit, ce serait totalement déterministe, ce qui est faux. Donc je vais un petit peu compliquer les choses en disant que il y a une accumulation de situations. Si vous voulez, cours d'histoire après cours d'histoire, il y a des signes qui vont légèrement infléchir, faire évoluer la façon dont Maëlys comprend ce que c'est qu'un cours d'histoire. Ça va légèrement transformer sa façon de comprendre ce que c'est que cette situation. Et donc, là, il y a une évolution possible du cercle, puisque il y a une évolution de la façon de comprendre le cours d'histoire, et du coup, le cours d'histoire suivant, elle ne se comportera pas exactement de la même façon si ça a évolué. Et ces deux opérations, c'est des opérations que j'appelle ajustement et calibrage, c'est-à-dire que la façon dont on se représente des situations habituellement permet de calibrer les situations nouvelles, c'est comme ça qu'on va se comporter, et au fur et à mesure qu'on rencontre des nouvelles choses, on va légèrement ajuster la façon dont on considère le cours d'histoire. Donc, en somme, si j'essaye de synthétiser la façon dont on devrait analyser les situations scolaires, je dirais que c'est un problème de définition de la situation et qu'il y a deux éléments à prendre en compte pour cette définition de la situation. C'est d'une part des signes extérieurs qui vont influer sur, qui vont me renvoyer à quelque chose que je connais, et d'autre part, une expérience passée qui va influer sur l'interprétation de la nouvelle situation une fois que j'y suis renvoyé. Alors, armé de ces outils, je peux maintenant essayer de me demander comment ça fonctionne tout ça dans la situation actuelle, autrement dit avec Maëlys. Et pour elle, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous présente d'abord un extrait d'une minute trente environ de l'enseignante, donc ça va être du discours de l'enseignante, et on va voir comment elle définit ce qu'il y a à faire, la consigne. En gros, ce que je vais travailler dans cette deuxième partie, c'est quelle est la consigne.
On l'a dit sur le chapitre précédent, on a vu notre petite fiche méta sur je rédige un récit. Ça, c'est bon pour tout le monde? Donc, c'est ce que vous allez devoir faire. Vous voyez en bas de votre page, il y a notre parcours de compétences. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit point de compétence à gagner là. Je rédige un texte pour répondre à la question clé. Que racontent les grands récits de la Bible sur les croyances des Hébreux? Donc, vous avez un certain nombre de documents qu'on va lire et qu'on va expliquer ensemble. À partir de ces documents, la tâche finale, ce que vous aurez à faire à la maison, c'est d'écrire un petit texte qui raconte les croyances de ce peuple. D'accord? Pour pouvoir vous aider, en classe, on va lire et on va regarder les documents ensemble et vous aurez trois questions à faire sur le cahier. D'accord? Première question, selon la Bible, qu'aurait créé le Dieu des Hébreux en combien de temps? Question 2, selon la Bible toujours, en quoi consiste l'alliance entre Dieu et Abraham? Et ensuite, qui est Moïse, qui est Salomon et quel lien ils ont avec leur Dieu? Toutes les réponses sont dans le document. Jeudi 31 mai. Hop, on va marquer rendre le texte sur les croyances des Hébreux. D'accord? Donc vous le ferez sur une petite feuille et je le ramasserai. On l'a dit.
Donc, vous voyez, pour l'enseignante, je crois que la consigne, pour nous, elle est très claire. On voit bien qu'en gros, il y a deux aspects. Il y a un aspect préparatoire qui va être fait dans la classe, avec trois questions qu'elle a clairement énoncées. Et ces trois questions renvoient à trois parties. Alors, je sais plus si c'est trois parties du texte ou trois documents, en tous les cas, de cette grande feuille qu'elle a distribuée à tout le monde. Et puis, il y a un deuxième aspect de la consigne, qui est un texte de synthèse à produire à partir de ces trois questions, et le texte est à réaliser à la maison. Il y a toute une série, et ça c'est vraiment ce que nous on retiendrait en écoutant l'enseignante, mais il y a toute une série d'autres signes qu'elle envoie aussi. Hein, le fait qu'il faille rendre le travail pour telle date, et Maëlys, je l'ai coupé, mais Maëlys demande bien, c'est à rendre pour quand. Le fait que tout est dans le texte, elle insiste là-dessus, tout est dans le texte, et ce que dit aussi Gabriel au centre social dans la vidéo que vous venez de regarder. Donc, il y a vraiment l'idée que finalement, pour répondre aux questions, bah, il suffit de faire ce qu'il y a dans le texte. J'insiste pas, mais en tous les cas, pour nous, la consigne, elle est assez claire. Quelles sont les difficultés que l'enseignante anticipe? Alors, elle anticipe trois types de difficultés.
Pour moi, ce qui est compliqué dans cette compétence, c'est que comme le travail de base n'est pas forcément toujours assez complet, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas au bout des choses, en fait. La grosse problématique qu'on a, par exemple, pour un texte, c'est que si on lit pas tout de suite avec eux le texte une première fois, qu'on réexplique et qu'on les oblige pas à relire entièrement le texte quand ils ont des questions, en fait, ils vont zapper avec les yeux en plein milieu du texte, et s'ils vont trouver un mot qui peut les intéresser, ils vont s'arrêter sur ce mot-là. Mais le type de document qu'ils ont, type de document religieux avec les croyances, l'histoire des Hébreux, c'est toujours été très compliqué. Passer de « j'ai écrit des questions et j'essaye de transformer ça en résumé sur ce que je vais pouvoir retenir », ce passage-là, il est extrêmement compliqué.
Donc vous voyez trois types de difficultés anticipées. Le premier type de difficulté, c'est l'idée qu'il y a beaucoup d'informations et qu'il faut arriver à trouver la bonne information. Deuxième, et la bonne information et être complet, ne pas se limiter à une seule information. Donc il y a vraiment cette idée d'exhaustivité. Deuxième difficulté, c'est lié à la nature même des textes, qui apparemment, selon l'enseignante, pose problème. Et puis troisième difficulté, l'exercice de la synthèse, c'est-à-dire passer des questions à la synthèse. Maëlys, face à ça, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je vais vous montrer un peu quelques extraits de son activité, et en particulier, je vais vous montrer les interactions qu'elle peut avoir avec l'enseignante. Et ce qui me paraît intéressant, enfin, ce qu'on voit quand on regarde la vidéo, on va dire de façon un peu plus étendue, c'est qu'elle n'est pas très active. Elle attend beaucoup, elle passe beaucoup de temps à attendre, et elle attend les réponses à la fois de son enseignante, de ses voisins et de l'encadrant du centre social. Alors, je vous laisse prendre connaissance de ce court extrait.
Madame,
on y va.
Madame, de la première question, c'est la Bible. Qu'aurait créé Dieu?
Alors, il a créé quoi, le Dieu des Hébreux?
On en met tout, on va en mettre quelques-uns.
Ah, bah, il faut être complet. On est complet. Donc, il faut mettre?
Tout.
Voilà. On est complet. Allez.
Et en combien de temps, c'est les jours?
Bah, voilà. Alors, il a fait tout ça en combien de temps?
6 jours.
Et le septième, il a fait quoi? Oh. Tout ça en 6 jours, le 7e.
Ah,
on fait quoi le 7e?
Consacré au repos.
Oui, fatigué. D'accord?
Oui.
Allez, on est complet. Et Thème, c'est bon?
Oui.
Allez.
C'est bon.
On commence par bien lire le document.
Bah, c'est ça la réponse.
Quoi?
Dans le document,
le 2e jour, quand
même, sur
le
Ouais.
Alors, on est déjà à 3 là?
Oui. Moïse. Et sous les mains de Dieu. Okay.
Très bien, allez, on continue. Fais bien effet.
Ah, j'ai trouvé le brassard.
Quoi?
Salomon. Dans le...
Mais attends, c'est dans l'ordre ou pas?
Mais non, attends, on va faire d'abord Salomon parce que j'ai trouvé. Regarde. C'est le roi Salomon était roi sur tout Israël. Attends, et le roi.
Allez, j'ai bien ton document.
Oui, c'est ça? Oui, fais la première phrase.
Donc là, vous voyez que Maëlys commence par demander s'il faut tout mettre ou pas. Alors, elle explique ensuite dans son autoconfrontation que si elle pose cette question, c'est parce que sur son cahier, il n'y a pas la place de tout mettre. Et donc, elle est embêtée par le format. C'est-à-dire que s'il faut tout mettre, alors il faut copier beaucoup de choses. Et elle pense qu'elle n'aura pas la place de copier autant de choses sur son cahier. Donc, elle attache une grande importance au format de la réponse, à en gros ce qu'il faut produire, ce qu'il faut faire. Deuxième constat, c'est qu'elle demande confirmation ou elle demande à l'enseignante ce qu'il faudrait qu'elle réponde. Elle demande ça à l'enseignante et puis elle le demande aussi à sa camarade. Et on voit que tout au long de la séance, sa camarade lui indique au fur et à mesure quels sont les éléments qu'il faut qu'elle surligne dans son texte, quels sont les éléments qu'il faut qu'elle copie dans son cahier. Bon, voilà. Et Maëlys passe donc un certain temps à attendre soit l'enseignante, soit que sa camarade lui fournisse des réponses. Ce qu'elle fait, une fois qu'elle a identifié, vous voyez, en gros, elle prend des phrases dans les textes et elle les recopie dans son cahier. Et on est donc dans quelque chose qui est de l'ordre de la saisie d'indices très, de la saisie très littérale d'indices dans le texte. Mais si je me remets dans le travail à plus long terme, qui le but de produire un résumé, vous voyez que ce n'est pas du tout simple. C'est assez compliqué de passer effectivement de l'un à l'autre, puisque là, je suis vraiment dans la copie de morceaux de texte et dans la production d'un résumé, je suis vraiment dans, au contraire, la compréhension de l'architecture générale. Enfin, c'est une toute autre affaire, évidemment. Alors, du côté maintenant du centre social, on va regarder un peu quelle est la consigne pour l'encadrant.
Ah, on essaye de faire au moins un plan. On note les idées. On cherche les idées à la fois dans le texte, on les note, et après on essaye de faire le lien avec toutes les idées, juste avec les mots de liaison. Ok ? Chercher une petite feuille de brouillon ?
C'est assez différent au centre. Étonnamment, on est beaucoup plus près de la commande finale. C'est-à-dire qu'on est vraiment non plus sur l'idée de « on va chercher des choses dans le texte », quoiqu'après ils disent « il y a beaucoup de choses dans tout ça ». Mais on est moins dans cette idée-là de copie littérale que vraiment dans la recherche d'idées, et ces idées vont servir pour la production derrière du résumé. Donc, paradoxalement, on est peut-être au centre dans un travail qui est plus élaboré et qui va peut-être aider Maëlys un peu plus pour le rendu final. Si j'essaie de reprendre tout ça, je peux quand même constater quelque chose, c'est que l'activité de Maëlys ne correspond pas complètement avec l'attente. Avec l'attente de l'enseignante, parce que je ne crois pas que l'enseignante s'attende à ce que Patrick Rayou appellerait un travail de bas niveau, c'est-à-dire la copie de phrases uniquement, bien qu'elle le valide. Mais je pense que pour elle, ce qui est important, c'est quand même la compréhension de ce qu'il y a dans les textes. Or, on ne voit pas forcément Maëlys accéder à cette compréhension. Et puis, ça ne correspond pas non plus à l'attente telle qu'elle est exprimée au centre, c'est-à-dire chercher des idées et les récupérer dans les textes. Si j'essaye de comparer ces différentes choses, c'est-à-dire de comparer la façon dont les différents acteurs comprennent ce qu'il y a à faire, je crois qu'on va tomber sur une définition de la situation qui pourrait m'aider à comprendre ce décalage. Alors, en effet, pour l'enseignante, donc, ce qui va être important, c'est de produire ces trois microtextes, mais pour faciliter la production finale. Et du coup, les élèves sont quand même supposés dégager des idées, bien que ce ne soit pas dit en cours, ce n'est pas présenté, mais elle le dit dans son autoconfrontation. Pour l'animateur, je passe à la troisième colonne, mais sur la même ligne, on doit produire une liste d'idées avec des mots à nous, dit-il, et si bien qu'il y a quand même l'idée de compréhension du texte puisqu'on doit le reformuler. Et en auto-confrontation, il le dit bien, et ainsi que dans la séance, il lui demande ce qu'elle a compris. Donc, il y a vraiment cette idée de compréhension. Et pour Maëlys, on est plutôt dans le relevé de certaines phrases qui sont des phrases qui sont attendues du fait des questions, de certaines idées, mais qui sont les idées attendues par l'encadrant, puisqu'elle dit ensuite dans son autoconfrontation « je suis sûr d'avoir l'idée qu'il voulait ». Voilà. Et en somme, on est dans l'idée qu'il y a une réponse, qu'il y a une bonne réponse et une bonne réponse à trouver. Donc, Maëlys, pour elle, ça c'est très fort. cette idée de bonne réponse, et cette bonne réponse, elle doit avoir un format. Ça, c'est un comportement que dans mon laboratoire, laboratoire école, on connaît bien, et qui est un comportement assez typique d'élèves qui ont du mal à se représenter les finalités des activités scolaires. Deuxième remarque, donc sur le deuxième aspect, l'idée de production d'une synthèse à partir des trois micro-textes, donc pour l'enseignante, qu'on retrouve avec l'animateur, puisque lui dit bien qu'il faut produire un texte, et pour ça il dit qu'on va partir de la liste des idées, rajouter une introduction, une conclusion et quelques mots de liaison. Et pour Maëlys, cette idée de production de texte, elle paraît moins perçue. En tous les cas, elle paraît pensée comme déconnectée des premières questions, puisqu'on voit qu'elle explique au centre qu'elle a fait les questions, ça y est, c'est déjà fait, ça, j'ai plus besoin d'y toucher. Autrement dit, le texte, ce serait quelque chose d'autre, comme si elle ne voyait pas le lien, l'architecture générale de l'activité. On va retrouver ça en se demandant quel est le contexte dans lequel cette activité est inscrite. Autrement dit, quelle est la logique de cette activité ? Et pour l'enseignante, tout ça participe d'une progression dans l'année, comme elle le dit dans son auto-confrontation, c'est-à-dire qu'il y a une évolution dans les compétences des élèves vers justement ce résumé qui est supposé produire une sorte de texte de savoir, en fait. Il produit une sorte de leçon. Pour l'animateur, on est sans doute moins dans l'idée de progression que dans l'idée d'une activité en une heure qui doit être bouclée. Puisque à la fin de la séance, vous savez, c'est comme le principe de devoir fait, à la fin, les devoirs doivent être faits. Et pour Maëlys, manifestement, on est face à un rendu. Il faut rendre quelque chose, rendre le texte sur les croyances des Hébreux, c'est ce qu'elle écrit sur son cahier de texte, et l'enseignante a bien dit « je ramasserai ». Donc, il y a un enjeu, qui est un enjeu de mise en conformité avec la demande scolaire, il faut rendre quelque chose. Pour l'enseignante, il y a une architecture générale, c'est-à-dire qu'il y a des étapes simples qui devraient mener au texte. Et pour l'animateur, une remémoration de ce qui a été fait dans la classe, ce qui a été fait avant et du cadre, c'est-à-dire il le montre bien, on écrit les questions. Quand l'architecture, on l'a vu, ne semblait pas évidente pour Maëlys. Et pour l'enseignante, c'est comme si l'activité était transparente pour les élèves, c'est-à-dire comme si c'était évident, en fait. On fait trois questions et puis vous vous appuierez sur les trois questions pour faire le résumé. D'ailleurs, elle le dit, mais elle le dit sans vraiment insister dessus, sans montrer comment on passe de l'un à l'autre, alors que de toute évidence, pour Maëlys, cette logique n'est pas perçue. Elle est plus attentive à la justesse de ses remémorations. Elle dit « j'en avais un peu oublié dans telle question », sur la production du texte final, c'est-à-dire elle dit bon, « bah, ça c'était facile, il fallait juste ajouter des mots de liaison », voilà. Et elle trouve assez pénible finalement cette activité qui est très lourde. Et puis en plus Gabrielle donc, du centre lui demande de faire une liste d'idées et là elle n'en peut plus, elle est fatiguée de sa journée, c'est normal, et donc elle dit ouais mais ça fait tout changer, c'est pas possible. Bon. Quant à Gabrielle, l'animateur du centre, ben, d'une certaine manière il traduit l'activité pour Maëlys puisqu'il lui demande de produire cette liste d'idées, il voit bien qu'il va falloir en passer par là, mais il n'explique pas vraiment pourquoi il le fait, si vous voulez. Il n'explicite pas cette traduction. Il se contente de la mettre en œuvre avec Maëlys, ou plutôt d'accompagner Maëlys dans sa mise en œuvre. Donc, si je reprends un peu mon schéma initial, vous voyez que l'enseignante et l'encadrant du centre social passent leur temps à produire des signes qui vont avoir pour objet de produire une certaine définition de la situation. Alors, je fais comme si c'était la même définition de la situation. En réalité, c'est un petit peu différent au centre, mais enfin, c'est tout à fait comparable, compatible. On va vraiment dans le même sens. Ce qui n'est pas toujours le cas. Entre parenthèses, quand on regarde le travail hors la classe, ce n'est pas toujours le cas. Là, on va plutôt dans le même sens. Et de son côté, Maëlys va passer son temps à interpréter les signes et en interprétant ces signes, elles modifient leur signification et elles modifient la signification de la situation. À partir des mêmes signes, j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que l'enseignante peut dire ben là, il y a un travail à rendre. Pour elle, ça veut dire quelque chose. Pour Maëlys, ça veut dire autre chose. Et c'est à la jonction de ces interprétations qu'on va trouver du conflit, qu'on va trouver un frottement et qu'on va trouver les difficultés d'apprentissage des élèves. Je vous ai dit que les signes sur lesquels tout le monde s'appuie sont les mêmes, mais qui ne sont pas interprétés de la même manière. En effet, maintenant, on peut comprendre que pour l'enseignante, bah, quand elle parle, elle fait de la dévolution de problèmes, comme on dit en didactique. Elle leur donne un problème à résoudre et puis ensuite, il faut qu'ils travaillent en autonomie. Pour l'animateur du centre, c'est plutôt un discours comme accompagnement de la réflexion de l'élève, de Maëlys. Et Maëlys a plutôt l'air de prendre le discours soit de l'enseignante, soit de Gabriel, comme donnant ou validant des réponses. Autrement dit, elle est toujours à la recherche de la bonne réponse et un de ses moyens de trouver la bonne réponse, c'est le discours des encadrants. Le travail des camarades, autre signe, est pensé par l'enseignante, elle le dit en autoconfrontation, comme une source de questionnement. On compare ses réponses, du coup, ça fait se demander des choses. Pour Maëlys, on voit que c'est plutôt, encore une fois, une façon de trouver des réponses. Et du reste, vous avez vu que dans Lilo, il y a une élève qui travaille et qui donne des réponses aux autres et les deux autres qui notent soigneusement les réponses qu'elle donne. De la même manière, le discours des camarades pour l'enseignante est supposé être un support à l'argumentation, alors qu'on voit qu'il y a très peu d'argumentation en réalité pendant la séance et que le discours est plutôt perçu comme donnant des informations. Les textes dont j'ai dit que c'était les premiers signes disponibles sont pour l'enseignante un support qui donne des informations et ces informations doivent être mises en réseau. Vous savez que c'est un support composite avec plein de petites sources d'informations qui doivent être reliées pour construire un texte de savoir, c'est-à-dire le résumé final. Pour l'animateur du centre, on a également des textes informatifs qui donnent des informations, les fameuses idées qu'on va lister, qui doivent être mises en réseau. Et pour Maëlys, on a plutôt un support qui est un support d'activité. C'est le texte qui est, c'est à partir de ça que je dois faire un exercice, c'est à partir de ça que je dois rendre quelque chose. Et là-dedans, il y a une forme de devinette, si vous voulez, c'est-à-dire que les réponses sont cachées dedans et je vais devoir trouver à quel endroit elles sont cachées. Et c'est ça qu'elle fait avec sa voisine. Elle lui demande alors c'est à quel endroit ? Là, la phrase sur Salomon, c'est bien celle-là ? Oui, c'est celle-là. Donc, il y a un aspect devinette, chasse au trésor de l'affaire, mais un peu devinette. La consigne écrite qui est notée dans le cahier de texte, pour Maëlys, c'est la trace de son travail à réaliser, de ce qu'elle va devoir faire, tandis que pour l'animateur, c'est les traces qu'il peut avoir du cadrage. Et c'est ce qu'il dit, je pars avec pas grand-chose, donc c'est les signes qui vont lui être disponibles et qui vont tout de suite l'orienter vers un certain type de travail, chercher des idées, quand Maëlys n'est pas forcément là-dedans. Alors,
c'est ça qui est extrêmement compliqué dans cette année de sixième, c'est qu'ils ont une capacité de concentration qui est très éphémère. Et Maëlys est comme ça dans la classe. On leur demande une information, l'information est notée sur le document. Ils ne vont pas lire le document, ils ne vont pas regarder le document. Ça, c'est un vrai problème qu'on a, je pense, sur tous les niveaux.
Donc, vous voyez que pour l'enseignante, le problème n'est pas du tout là. Le problème n'est pas dans la confrontation de ces définitions de la situation. Ce n'est pas un problème d'interprétation de la situation. Il y a deux problèmes. D'une part, le fait qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend dans les salles des enseignants, dans les salles des maîtres, dans les écoles. Enfin, le problème de la concentration. Et puis, d'autre part, ils se contentent de peu. Qu'est-ce que c'est que mon histoire de curriculum invisible à partir de ça ? Alors là, je me suis concentré sur un niveau, en fait, c'est-à-dire sur l'activité des élèves à partir des signes disponibles, l'activité attendue, si vous voulez. Mais il y a toutes sortes d'autres niveaux, c'est-à-dire qu'on pourrait se demander l'activité, on peut la définir comme ça, mais qu'est-ce qui permet de définir l'activité? Vous savez, j'avais dit qu'une situation similaire calibrait une situation nouvelle. Alors, qu'est-ce qui va calibrer l'activité? Et là, je vais me référer aux excellents travaux d'Anne-Marie Chartier, qui dit que la représentation que chaque élève se fait de l'activité, du savoir concerné, est construite empiriquement par ressemblance et différence du fait du cumul des tâches. On apprend le sens du concept ancestral de grammaire ou celui plus récent de technologie, comme on apprend sa langue naturelle par l'usage et non par principe, en contexte et non par des définitions. Autrement dit, un ensemble d'activités, ça porte un nom, ça s'appelle une discipline scolaire. Donc, ce qui va calibrer l'activité, c'est la façon de comprendre une discipline. Vous savez, les disciplines, c'est ce qu'on trouve dans les écoles dès le CE1, même dès le CP. Quand au tableau, on voit écrit ce genre de choses, conjugaison, passé, composé, présent, futur, gratté. Donc, autrement dit, on a un emboîtement de catégories. La grande catégorie, c'est conjugaison. Dans cette grande catégorie, on a passé, composé, présent, futur. Puis dans cette sous-catégorie, le verbe du premier groupe, gratté. Bon. Alors, si j'applique ça au cas qui nous occupe, on va plutôt être dans histoire-géographie, la discipline qui est affichée sur l'emploi du temps. On est dans de l'histoire. Et puis dans histoire, on va être face à une sous-discipline bizarre de histoire qui est ce résumé et qui est en fait la production d'un texte de savoir en histoire. Alors, comment est-ce que c'est compris par les différents intervenants? Pour l'enseignante, l'histoire paraît manifestement être une discipline appuyée sur des sources, puisque là, on est face à des sources qui sont données à voir sur ce document et sur une planification des idées qui va être nécessaire pour produire le résumé. Pour l'animateur, de la même manière, on a hiérarchisation et mise en ordre des idées. Donc, l'histoire est manifestement conçue comme ça, en tous les cas, l'exercice qui est donné là. En revanche, pour Maëlys, ça ne paraît pas du tout évident. Il est manifeste que l'histoire soit une discipline scolaire. Il faut écrire, donc on est face à une discipline scolaire. Mais est-ce qu'on est en histoire? Est-ce qu'on est en français? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ça ne paraît pas très clair. Pour l'enseignante, le résumé, donc cette sous-discipline de l'histoire, alors s'il y a des historiens qui écoutent aujourd'hui, ils vont certainement hurler parce qu'ils ne vont pas du tout reconnaître le résumé comme une sous-discipline, mais il le devient de fait puisqu'il faut produire un résumé dans l'histoire. Le résumé doit, pour l'enseignante, conduire à la production de quelque chose qu'on pourrait appeler une leçon ou un texte de savoir. Elle dit un petit texte qui raconte les croyances de ce peuple. Pour Maëlys, on est plutôt face à un relevé d'indices et l'enseignante donne des signes qui tendent à faire penser ça, c'est-à-dire toutes les réponses sont dans le document, qui est fastidieux, comme elle le montre par de nombreux gestes, et qui est difficile, là, l'enseignante le dit, ça va être difficile parce que c'est nouveau, et avec un format très précis en termes de longueur, ce qu'elle note. Pour l'animateur, on est un peu comme pour l'enseignante, devant un résumé qui doit assurer la synthèse des apprentissages. Et donc, on a, comme avec l'enseignante, l'idée de bonne compréhension. Donc, vous voyez que les représentations de la discipline, les interprétations de la discipline ne sont pas forcément les mêmes, d'après ce que je peux en voir, en tous les cas, dans les différentes vidéos, et vont donc calibrer l'activité de manière différente. Je suis en train de, si vous voulez, ma démarche, c'est d'essayer de faire une espèce de généalogie de l'interprétation de l'activité et donc de me demander pourquoi l'activité est interprétée comme ça. Et donc cette généalogie, elle m'amène à penser que Maëlys pense plutôt ça. Mais alors, vous allez me dire du coup, qu'est-ce qui calibre la discipline? Oui. Pourquoi se faire cette idée de l'histoire? Et je vous renvoie à mes recherches, je n'aurai pas le temps de le développer, mais ce qui va calibrer les disciplines, c'est le comportement qui est adopté et qui est exigé dans ces disciplines. C'est ce qui permet de distinguer aussi les disciplines scolaires de disciplines qui seraient non scolaires, d'activités que les enfants pourraient faire en dehors de l'école. Enfin, voilà. Et donc là, je vais m'intéresser au comportement exigé, au comportement attendu plus exactement. Alors, le comportement dans les écoles, dans les observations que j'ai pu faire dans les écoles, il y a, le comportement, il est constitué d'un certain nombre d'attitudes qui vont se succéder avec quatre attitudes majeures. L'attitude d'apprentissage, ça consiste à se focaliser sur un objet d'apprentissage, par exemple des textes qui racontent l'histoire des Hébreux ou les croyances des Hébreux. Donc, se focaliser sur un objet et l'étudier, c'est-à-dire en étudier les caractéristiques. Attitude de retrait, c'est se mettre à côté du travail, qui est le travail collectif de la classe, pour étudier un autre objet, par exemple l'oiseau qui passe devant la fenêtre. Troisième attitude, l'attitude d'interaction, ça va consister à discuter avec son camarade ou son voisin, sa voisine, parfois pour des raisons scolaires, typiquement avec de l'argumentation, ou pour des raisons non scolaires, y compris pour s'amuser et bavarder. Et enfin, l'attitude de contrôle, qui est une forme de renversement de l'attitude d'interaction contre l'enseignant, et qui vise à prendre le contrôle de la situation. Ces quatre attitudes, et qui visent à prendre le contrôle de la situation, aussi bien du fait d'élèves qui sont jugés performants, que d'élèves qui sont jugés être des élèves en perdition pour l'école et qui vont renverser la classe pour mettre le bazar, donc d'une certaine manière reprendre le contrôle également. Et ces quatre attitudes donc se combinent pour constituer des modes de comportement qui vont être plus ou moins scolaires. Typiquement, le comportement scolaire, il est fait d'attitudes d'apprentissage majoritaires et puis d'attitudes de retrait minoritaires entre deux moments d'apprentissage, mais avec la capacité à sortir très vite de l'attitude de retrait pour se remettre en attitude d'apprentissage. Alors, le problème, c'est que l'école, souvent, attend plus, enfin, exige plus une posture qu'une attitude. Elle ne sait pas très bien comment faire pour faire comprendre l'attitude attendue. Alors, je vous donne des exemples. Taisez-vous, ce qu'on entend dans toutes les classes, et qui veut dire, en réalité, concentrez-vous sur un objet d'apprentissage. Travailler, qui veut dire en réalité réfléchissez. Vous voyez, c'est par la posture plus que par le contenu réel en termes d'attitude et notamment en termes de valeur scolaire de ces attitudes. Écrivez au lieu de noter le résultat de vos réflexions ou faites votre exercice pour mettre vos réflexions à l'épreuve d'une nouvelle situation. Bon, voilà. Je sais pas si, je pense que vous voyez à peu près l'idée. L'idée, c'est que dire les attitudes, c'est assez fastidieux et compliqué, et donc on va plus être dans la posture. Alors, comment interpréter le comportement attendu dans cette situation? Pour l'enseignant, manifestement, il faut se centrer sur un objet, les textes qui expliquent la Genèse, la consigne. Bon. Pour l'animateur, on se centre aussi sur un objet qui n'est pas exactement le même. D'abord la consigne des devoirs, puis ensuite les textes, et ça suppose d'exhumer d'une certaine manière des objets pour appuyer l'activité, alors la frise, les cours de Maëlys dans le cahier, les textes. Et Maëlys semble plutôt être dans une posture scolaire, c'est-à-dire qu'elle écoute l'encadrant, mais elle a vraiment l'air d'être en retrait, de regarder par la fenêtre ou de regarder au loin, elle a le regard un peu perdu dans le vide. Elle écoute la consigne, elle a l'air concentrée, elle ne se plaint pas, on ne l'entend pas. Maëlys n'est pas une élève difficile et elle va produire quelque chose. Mais on voit que ça a l'air d'être plus une posture qu'une attitude réellement scolaire. L'enseignante attend qu'il y ait une forme de regard critique sur la source, manifestement. Et c'est pour ça qu'elle dit que les textes sont difficiles, parce qu'on ne doit pas prendre ces textes au premier degré. On doit les prendre comme des sources. Et ça, c'est probablement quelque chose qui est très caractéristique de l'histoire. Chez Maëlys, cette idée de regard critique n'apparaît manifestement pas. Et quand elle discute avec l'enseignante, elle raconte la Genèse comme si ça s'était passé. Donc, on n'est pas vraiment dans une mise à distance. Or, cette mise à distance, elle est très caractéristique aussi de l'école. L'école, pour l'enseignante, est apparemment perçue comme un lieu où les attentes sont en grande partie évidentes, mais ce qui est le cas dans, je vous le dis, toutes les classes, si bien qu'il n'est pas forcément nécessaire de les expliciter. Et on le voit quand elle est quand elle n'arrive pas à comprendre le comportement de Maëlys, quand elle a du mal à l'expliquer dans son autoconfrontation. Alors que pour Maëlys, les attentes semblent en grande partie opaques. Ce qui explique d'ailleurs sans doute pourquoi elle attend les réponses, parce qu'elle sait qu'elle a de grandes chances sinon de se tromper et donc d'avoir derrière une sanction par le biais d'une mauvaise note. Mais alors, comment expliquer le comportement attendu? Qu'est-ce qui va le calibrer? Et là, ça va être le but, qui est le but supposé dans la situation. Quel est le but théorique dans cette situation de travail? Alors, il y a différentes configurations de but qui correspondent aux différentes attitudes, aux quatre attitudes que j'ai développées tout à l'heure. Typiquement, pour un élève scolairement performant, ça va être trouver dans l'attitude d'apprentissage, gagner pour les interactions. Il y a une compétition scolaire, ça tous les bons élèves le savent. Comprendre quand il va être en attitude de retrait et diriger pour arriver à retourner vers quelque chose qui va lui être favorable, retourner à la classe vers quelque chose qui va lui être favorable. Mais il y a d'autres configurations de but qu'on trouve chez les élèves. Par exemple, un élève décrocheur, attendre, imaginer, s'amuser et renverser. C'est-à-dire que quand la situation devient intolérable parce qu'on perd trop son temps, ça va se traduire par un renversement de la classe, tout mettre sans dessus dessous. Autre exemple, ceux qu'Anne Barrère appelle les forçats, vous savez, ceux qui travaillent beaucoup mais dont les résultats scolaires sont plutôt faibles, exploiter, attendre, aider et obéir. Obéir, cette chose que les enseignants savent si bien faire comprendre qu'à l'école, quand on n'obéit pas, ça se passe mal. Le problème, c'est que l'école a beaucoup de mal, de la même manière que tout à l'heure, à faire comprendre quels sont les buts. Et plutôt que de les expliciter, elle a tendance à fonctionner par gratification et sanction, carotte et bâton. Alors là, c'est vraiment un classique, vous connaissez tous ça par cœur et toutes. Les remarques positives, les bons points, les bonnes notes, etc. Ou alors, au contraire, haussement de ton, humiliation, réprimande, croix au tableau, retenue, etc. Mauvaise note, sortir le livret. Alors, dans la situation qui nous intéresse, comment les différents acteurs interprètent-ils les buts? Pour l'enseignante, il y a manifestement volonté d'apprentissage comme étant, mais qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? C'est comprendre et donc expliquer. Il faut, et elle le dit, il faut que je sois clair. Donc, il y a une explication qui mène à la compréhension, et la compréhension, c'est l'apprentissage. Mais il y a aussi de la mémorisation. Et ça, elle le montre en disant, il ne reste pas grand-chose. Tu es obligé de repartir à zéro, c'est-à-dire qu'il y a un aspect cumulatif des informations qui est sans doute lié à sa discipline. Et l'apprentissage également comme découlant d'une forme de travail. Et là, elle le dit que Maëlys n'est pas dans une posture de travail, elle est dans une posture d'attente, et donc elle ne peut pas apprendre. Et enfin, l'apprentissage comme nécessitant une méthode. Au centre, on retrouve ces différents aspects, compréhension, remémoration, mais il y a aussi, qui correspondrait au caractère travail, il y a l'idée de mise en conformité qui est plus forte au centre puisqu'il y a un rendu et à la fin de l'heure, le travail doit être fait. Et puis, l'idée de méthode qui est peut-être plus développée parce qu'il dit que pour lui, c'est très important d'essayer de montrer une méthode à Maëlys. Qu'est-ce qu'on retrouve de tout ça chez Maëlys? L'idée de compréhension, elle n'est pas très présente. Elle n'en parle jamais et elle a plutôt l'air d'attendre des réponses. Donc, on n'est vraiment pas tellement dans la compréhension des textes, dans l'analyse des textes. En revanche, il y a vraiment l'idée de se remémorer des informations. Et donc, l'apprentissage sera un peu vu comme du remplissage, si vous voulez. Mais avec également le risque de trop-plein qu'on voit le soir au centre, elle en a assez. D'où peut-être aussi la faible utilité de la compréhension et l'intérêt d'obtenir ces informations de toutes les sources possibles. Et on retrouve également l'apprentissage comme la production d'un travail et avec la mise en conformité. Donc, vous voyez, ce qui manque assez nettement, c'est vraiment cette idée de compréhension et d'un objet qu'il faudrait creuser pour comprendre tout ça. Si j'essaie de représenter mon schéma du curriculum invisible, donc on a 5 niveaux qui sont liés, si je les reprends dans l'ordre, le niveau des signes, de l'activité, de la discipline, du comportement et du but. Et on a des attentes de l'école d'un côté, qui sont exprimées par l'enseignante en situation, de l'autre côté, une interprétation de ces attentes par Maëlys, Et l'interprétation de Maëlys et de l'enseignante ne correspond pas. Et donc, à chaque niveau, on va se retrouver avec des conflits, des frottements entre ces interprétations. À quoi nous sert tout ça ? Je crois que ça montre quelque chose, c'est que ces différents niveaux sont liés entre eux par ces opérations de calibrage et d'ajustement. Le fait que tout ça soit lié est très important parce que ça explique pourquoi il y a une inertie des difficultés des élèves. Il ne suffit pas de réexpliquer la consigne pour que tout change. Il faut que j'arrive à faire bouger conjointement l'interprétation des signes, de l'activité, de la discipline, du comportement et du but. Mais ça, c'est très compliqué parce que c'est ancré, ça a été ancré au cours de nombreuses situations scolaires qui ont déjà eu lieu, en particulier si je suis au collège. Et donc, je vais avoir beaucoup de mal à faire changer Maëlys sur l'idée qu'elle a de ce que c'est qu'apprendre. Ça va être très compliqué. Elle est sûre qu'il faut être à l'école pour apprendre, mais pour elle, apprendre, ça veut peut-être pas, ça veut sûrement pas dire la même chose que pour son enseignant. Et donc là, vous voyez, je vais devoir aller chercher très très loin. De même que si je veux faire bouger la compréhension qu'elle a de l'activité, ben, je vais être obligé de faire bouger la compréhension qu'elle a de la discipline, du comportement et du but. Enfin, voilà, tout ça est intimement lié. Maëlys, je crois, a conscience de cette inertie et elle se trouve dans une forme de difficulté, c'est qu'elle ne sait pas, elle non plus, par quel bout prendre ses difficultés. Et le résultat, c'est qu'elle adopte un comportement qui est le comportement de tous les élèves qui ont des difficultés dans les classes. Et donc, voilà ce qu'elle explique.
Je ne pose pas de questions, parce qu'en fait, je comprends assez vite.
Voilà, on comprend mieux nous aussi. Voilà la raison pour laquelle elle ne pose pas de questions, bah parce qu'elle a tout compris finalement. Donc, elle n'a pas besoin d'aide. Donc, vous voyez, pour moi, alors, je ne sais pas comment ça se passe pour Maëlys par ailleurs dans la classe, mais dans la séance que je viens de voir, en cours d'histoire, ce que j'ai pu analyser, une élève qui est un peu à côté de ce qu'attend l'école, même plutôt à côté de ce qu'attend l'école, et qui, avec un profil qui correspond à ce qui a déjà été documenté dans pas mal de travaux, et qui se retrouve coincée, c'est-à-dire qui sait que si elle commence à poser des questions, elle va se retrouver face à des aides qui seront des petites aides, qui ne sont pas à la mesure des difficultés qu'elle a, et donc des aides qui vont se retourner contre elle, faire perdre du temps, etc. Voilà. Donc, cette histoire de curriculum invisible, pour moi, c'est un bon outil pour analyser les difficultés des élèves et les situations scolaires.